Décryptage, Nathalie Amar.
Et alors que les États-Unis voient se rapprocher à grands pas un duel Clinton-Trump pour la présidentielle en novembre prochain, gros plan ce soir dans Décryptage sur la politique étrangère de Barack Obama. Le chef de la Maison-Blanche s'en est expliqué très longuement il y a quelques jours dans la revue The Atlantic. Il revient entre autres sur sa décision de ne pas intervenir militairement en Syrie en 2013, malgré la preuve formelle d'utilisation d'armes chimiques contre les populations civiles. À l'époque pourtant, il le laissait croire.
Je n'ai pas fixé de ligne rouge. Le monde a fixé une ligne rouge. Le monde fixe une ligne rouge à partir du moment où les gouvernements de pays représentant 98% de la population mondiale disent que l'usage d'armes chimiques est interdit et signent un accord pour combattre leur utilisation, même si les pays concernés sont engagés dans une guerre. Comment ne pas réagir quand les vidéos ont été diffusées et qu'on a vu ces images de 400 enfants victimes de gaz toxiques? Tout le monde s'est alors demandé comment cela a pu arriver dans notre monde moderne.
Barack Obama en 2013, aujourd'hui, il affirme « Ne pas intervenir fut une décision très dure à prendre, mais j'en suis particulièrement fier. » Alors, renoncement ou sagesse, que retiendra-t-on de la double présidence Obama sur la scène internationale? Qu'attendre aussi de ses successeurs potentiels? On en parle avec notre invité. Bienvenue. Et pour nous accompagner ce soir, Célia Belin, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au centre Thucydide de l'université Panthéon-Assas, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Alors pour se justifier de cette volte-face de 2013 sur la Syrie, Obama explique entre autres dans The Atlantic qu'il a en fait résisté à l'establishment militariste des États-Unis. C'est une façon pour lui, à l'heure du bilan, de réécrire un peu l'histoire à son avantage ?
Oui, d'une certaine manière, puisque il faut se souvenir que Barack Obama était celui qui avait dessiné la ligne rouge, cette ligne rouge que Bachar el-Assad n'était pas censé franchir sur l'usage des gaz chimiques, des armes de destruction massive. Et Bachar el-Assad a franchi la ligne, apparemment de manière répétée tout au cours du printemps 2013. En tout cas, ça avait été révélé par Le Monde, entre autres. Et ensuite, de manière très forte, évidemment, ce mois d'août 2013, si forte que personne n'a pu éviter de le remarquer. Et là, d'un seul coup, Barack Obama s'est retrouvé face à ses contradictions. Et puis, pendant cette semaine-là, avec David Cameron, avec François Hollande, il y avait une sorte de montée vers la guerre au cours de cette semaine de la fin août, avec Barack Obama qui avait l'air d'être parti pour voter, pour décider cette intervention de punitive, en fait, à l'encontre de Bachar el-Assad.
Et pourquoi a-t-il renoncé devant l'obstacle, finalement? Qu'est-ce qui lui a fait peur, finalement? Ou qu'est-ce qui a présidé à ce choix?
Alors, ça a été un tel volte-face que, à l'époque, ça a surpris beaucoup d'observateurs qui, étant donné sa rhétorique quelques jours avant, y compris la rhétorique de John Kerry le jour même, le 30 août, vers une montée vers la guerre, pourquoi d'un seul coup le volte-face? Alors, il réécrit l'histoire un petit peu dans The Atlantic et il explique qu'il se sentait obligé, forcé, finalement, un peu de la même manière qu'on lui a forcé à faire le surge en Afghanistan, c'est-à-dire à renvoyer plus de troupes en Afghanistan pour stabiliser l'Afghanistan. Il dit un peu de la même manière que finalement Washington le force, le Washington playbook, c'est-à-dire tous les think tanks de Washington et l'appareil...
L'establishment, ce qu'on appelle l'establishment,
oui,
un peu largement.
On entend même le complexe militaro-industriel. Enfin, il le dit pas comme ça, évidemment.
Les marchands d'armes.
Mais voilà, on a ce sentiment que c'est ça qui l'accuse en filigrane, de lui mettre la pression pour finalement intervenir. Mais c'est pas si évident que cela. Peut-être que Barack Obama est dans l'ambiguïté qu'il a toujours été, c'est-à-dire que Barack Obama n'a jamais voulu repartir dans une grande guerre au Moyen-Orient. Il était le président qui devait s'extirper à la fois de l'Irak, de l'Afghanistan et ne pas se réinvestir. Mais dans le même temps, il a certaines grandes valeurs et il a défendu certains grands principes, y compris la non-utilisation d'armes de destruction massive. Et donc là, il arrivait en contradiction. Et donc, il a choisi une porte de sortie qui n'était pas un volte-face personnel. Il aurait pu dire « on n'attaque pas ». Il a dit « je remets permet au Congrès, qui est une façon relativement peu courageuse finalement, de se débarrasser de cette affaire.
Oui, mais lorsqu'en 2012, là il était en pleine campagne pour sa réélection, il avait été sollicité pour venir en aide à l'opposition syrienne. Là, il est aux abonnés absents. Et cette espèce de dogme de la non-intervention en fait, à cette époque-là, quasiment un allié objectif du régime syrien. Il l'assume, ça, aujourd'hui ?
Alors, un peu d'autres dirigeants occidentaux, il n'a pas été totalement neutre dans cette affaire, puisqu'il a dit très tôt, il me semble dès 2011, Bachar el-Assad doit partir. Ensuite, il a participé avec la France à la coalition des Amis du peuple syrien et autres formulations pour essayer de trouver une alternative à Bachar el-Assad. Et puis, maintenant, il explique que forcé par son appareil militaire, ou en tout cas poussé par ses conseillers, il a accepté du bout des lèvres de former et d'équiper une partie de ces rebelles. Donc oui, sa tiédeur du départ peut faire penser qu'il est co-responsable. Mais cette affaire est extrêmement ambiguë, puisqu'on a des contre-exemples dans tous les sens. Il y a la Libye où il y a eu une intervention occidentale et puis finalement on se retrouve dans une situation assez dramatique. Et la Syrie où il n'y a pas eu d'intervention occidentale jusqu'à l'intervention de la Russie, bien sûr, où on se retrouve évidemment dans une situation absolument dramatique.
Alors justement, à propos de la Libye, dans son entretien à The Atlantic, Obama a la dent dure, à propos de la campagne aérienne de 2011, il accuse Nicolas Sarkozy d'avoir voulu, je cite, claironner ses succès dans la campagne aérienne alors que les États-Unis avaient fait le gros du travail. Est-ce qu'il pourrait aujourd'hui être tenté d'achever cette campagne libyenne? On va écouter, si vous voulez bien, ce que disait il y a quelques jours le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, après les attaques terroristes sur le sol tunisien.
Le ministre continue de travailler avec l'équipe de sécurité nationale de la Maison-Blanche à l'évaluation de la menace représentée par l'État islamique en Libye. La discussion est ouverte avec le chef d'état-major des armées, le général Dunford, sur les options dont nous disposons. Nous avons la volonté de frapper les terroristes de l'État islamique en Libye pour éviter les métastases terroristes là et ailleurs. La Libye fait bien partie de notre campagne contre ces terroristes, ce n'est pas seulement en Irak et en Syrie.
Voilà, l'État islamique devenu, on peut le dire, pour les États-Unis, la grande affaire de la deuxième partie du mandat Obama. Est-ce qu'au nom de cette lutte antiterroriste, il pourrait décider aujourd'hui d'intervenir en Libye, d'après vous?
Oui, je pense qu'il y a de grandes chances. Barack Obama a bien démontré que s'il n'avait absolument jamais eu l'intention de remettre des soldats américains sur le sol dans un grand pays Moyen-Orient ou en l'occurrence Afrique du Nord. En revanche, il a eu une présidence très musclée et on l'oublie trop souvent dans la lutte antiterroriste. Il a fait un usage assez vigoureux des drones.
10 fois plus d'attaques de drones que sous le double mandat de George Bush, c'est ce que j'ai lu dans la presse, effectivement.
Absolument, il ne semble avoir aucun état d'âme à ce propos. Et puis ensuite, il y a eu le tournant quand même de 2014 quand il a décidé finalement que l'État islamique était une menace suffisamment sérieuse, en particulier après la décapitation des deux journalistes. Il a décidé d'y aller très fort contre l'État islamique. Et récemment, il y a eu aussi une attaque contre les Al-Shabaab. Donc, Barack Obama n'a pas d'hésitation à ce sujet. Et je pense que s'il considère qu'en Libye, il y a un coup à faire pour montrer et pour détruire une partie des bases arrières de l'État islamique qui se développe à toute vitesse dans le Maghreb, il le fera.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a été finalement rattrapé par l'actualité et mis en contradiction avec finalement ce qui était son obsession au début du premier mandat, c'est-à-dire d'incarner la rupture avec la politique étrangère de George Bush?
Oui, alors il essaie de trouver une cohérence générale, notamment à travers cet article de The Atlantic, et quelque part il y en a une, c'est-à-dire que Barack Obama, on l'a appelé le conséquentialiste, on l'a appelé réaliste, on l'a appelé pragmatique. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce logiciel de Barack Obama, qui veut qu'il va toujours essayer de privilégier une solution non militaire à une solution militaire, tout en s'assurant finalement par un pratiquement pratiquement des services policiers que les menaces immédiates de type terroriste sont contenues. Donc en fait, pour résoudre les grandes crises, il va, que ce soit la crise sur l'accord, le nucléaire iranien ou la crise syrienne, il va pousser l'idée que des soldats américains sur le sol de ces pays-là seraient uniquement néfastes et seraient de toute façon contraires aux intérêts américains. Et donc, la seule solution est d'aller vers une solution négociée. C'est un peu ce qui est en train de se produire.
Est-ce qu'on a pris finalement Obama pour un idéaliste alors qu'il n'était qu'un pragmatique? Je vous pose la question parce que justement, dans les colonnes de The Atlantic, sa conseillère à la sécurité nationale, Susan Rice, affirme à propos de l'accord sur le nucléaire iranien qu'il ne s'agissait pas d'entamer une nouvelle ère d'entente avec Téhéran, simplement de faire baisser le niveau de dangerosité du pays. Voilà, un intérêt tout simplement pragmatique, c'est ça qui gouverne sa politique étrangère.
Alors, là où on pourrait peut-être voir une forme d'idéalisme, c'est que s'il y a bien un sujet sur lequel Barack Obama a été relativement sérieux et constant, c'est celui de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, en particulier le nucléaire. Dans les négociations avec la Russie, ou alors les négociations sur le nucléaire iranien, et d'une certaine manière, dans sa ligne rouge à Bachar el-Assad sur l'usage des armes chimiques, il y a une constante chez Barack Obama qui est d'un ordre peut-être idéaliste, d'aller vers un monde sans armes nucléaires ou en tout cas avec une diminution des risques de prolifération. Ça, je pense qu'il y a une version idéaliste. Mais pour le reste, pour la manière dont il a abordé, que ce soit en fait, parce que on peut pas vraiment regarder ça à l'aune de l'Irak ou de l'Afghanistan qui sont des crises héritées, mais il faut regarder à l'aune des printemps arabes. Quelle a été la réaction de Barack Obama sur l'ensemble des printemps arabes? En fait, il n'a pas suivi l'agenda de la liberté ou de la promotion de la démocratie un peu hérité des néoconservateurs ou de George Bush, ou même d'une partie des démocrates, mais il a eu un regard très pragmatique, très minimaliste, en évitant à tout prix de s'impliquer, et d'une certaine manière, dans une logique parfaite, avec ce qu'il avait déjà énoncé dans le discours du Caire, qui disait « nous laisserons les peuples du Moyen-Orient prendre leurs propres décisions ».
Un discours du Caire, donc, qui avait entraîné, aussi suscité pas mal de déceptions, hein, parce qu'il annonçait un peu une nouvelle ère dans les relations avec le monde arabo-musulman, et ça n'a pas été toujours tout à fait le cas.
Mais si je puis me permettre, il y a une partie de ces déceptions qui était aussi ce qu'on a bien voulu entendre de ce que disait Barack Obama. Et je pense que s'il y a une claire déception, c'est le dossier israélo-palestinien.
Son échec sur le Proche-Orient.
Voilà.
Comment est-ce qu'on l'explique a posteriori? Parce qu'effectivement, il n'a pas obtenu du Premier ministre israélien le gel de la colonisation des territoires palestiniens. Et en même temps, il n'a pas non plus un franc soutien et des relations très cordiales avec les Palestiniens. Il a échoué, il s'en est désintéressé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce dossier-là?
Je pense qu'il est peut-être arrivé, puisqu'il s'en est occupé dès 2009, avec une certaine arrogance, en pensant que son élection relativement triomphale, et en tout cas l'enthousiasme qu'il suscitait à l'étranger, en particulier en Europe, dans le Moyen-Orient, il faut voir les chiffres incroyables de soutien à Barack Obama à cette époque, au printemps 2009, allait suffire finalement à rassembler, et il y avait une approche un peu naïve, et il a eu un front du refus total, un obstructionnisme total de la part de Netanyahou, qui n'est pas sans rappeler d'une certaine manière les Républicains et le front obstructionniste qu'il a au Congrès, et devant lequel Barack Obama est démuni. On dirait qu'il ne sait pas négocier face à ça, qu'il ne sait pas jouer d'entourloupe. Peut-être qu'il ne veut pas s'abaisser, et c'est encore une fois peut-être sa plus grande qualité et son plus grand défaut. Et il n'a pas su finalement se mettre au niveau de Netanyahou pour commencer à initier des négociations satisfaisantes.
Est-ce que son ancienne secrétaire d'État, Hillary Clinton, si elle arrivait à sa place en novembre prochain, aurait une attitude différente, aurait davantage d'arguments peut-être pour négocier dans un sens ou dans un autre?
La situation est telle au Proche-Orient actuellement, avec un non-vouloir des deux parties, qu'il semble extrêmement difficile d'imaginer qu'un président américain ou une présidente américaine qui arriverait en fonction puisse vraiment y jouer là-dessus. Il y a toujours l'argument de dire qu'il faut que le président américain soit suffisamment proche des Israéliens pour finalement réussir à les convaincre et à les amadouer. Mais on est dans une situation où il y a en face pas de partenaire crédible, en tout cas suffisamment représentatif du peuple palestinien dans son ensemble, y compris Gaza, pour imaginer d'avoir subitement une solution globale. Peut-être que on retournera à une procédure incrémentale.
Décryptage en compagnie ce soir de Célia Belin sur la politique étrangère des États-Unis à l'aune donc de cette contribution de Barack Obama dans la revue The Atlantic. Célia Belin, la politique étrangère a rarement été déterminante lors d'une présidentielle américaine. Est-ce que cette fois-ci, ça peut être différent compte tenu du contexte international?
Alors, elle a été déterminante récemment, en 2008, par exemple, où on avait, elle a été déterminante pendant les primaires démocrates, où Hillary Clinton avait voté pour la guerre en Irak, et Barack Obama n'a pas oublié de le mentionner, puisque lui s'était opposé très tôt, quand il était encore sénateur, mais au niveau de l'État de l'Illinois. Et elle a été déterminante face à John McCain, avec Barack Obama, qui était le président du retrait des troupes et anti-guerre en Irak. Donc, on peut pas toujours...
Mais ce n'est pas, a priori, le sujet de préoccupation principale des Américains à l'heure de faire leur choix.
Non, et il y a seulement un an, les questions de politique étrangère était très en deçà des questions économiques quand on demandait aux électeurs qu'est-ce qui allait compter. Mais c'est remonté très très vite. Et aujourd'hui, les questions de politique étrangère dans leur ensemble et en particulier de sécurité nationale avec un très gros focus sur le terrorisme sont redevenues le sujet de priorité numéro un des Américains.
Alors, c'est l'effet San Bernardino ?
C'est l'effet San Bernardino mélangé à l'effet Trump et à l'effet réfugiés. Je pense que là, on mélange terrorisme et sécurité intérieure et réfugiés comme problématique générale, avec un sentiment aiguisé par Donald Trump d'une Amérique assiégée par ses extérieurs. Et donc, le sujet fait la une de Fox News absolument constamment et donc revient dans l'esprit des Américains comme étant une problématique fondamentale.
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué Donald Trump et pourtant, on l'a dit dans nos journaux, il avance à grands pas vers cette investiture. En tout cas, il le souhaite. On verra ce que décide cet été le parti républicain. Donald Trump qui promet de restaurer la puissance des États-Unis, qui dit volontiers que le double mandat d'Obama a affaibli les États-Unis sur la scène mondiale. Au-delà de ces formules, est-ce qu'il a véritablement des projets en politique étrangère ? Sur quoi s'est-il avancé ?
En fait, quand on écoute bien Donald Trump, il a vraiment une politique étrangère à la fois cohérente à sa manière et constante. Et un journaliste disait encore récemment que ça fait 3 décennies qu'il a la même politique étrangère. C'est une politique étrangère minimaliste de repli, protectionniste pour ce qui est du libre-échange. Il est contre tous les accords commerciaux libre-échangistes qui sont négociés actuellement. Mais c'est aussi une politique étrangère qui veut minimiser l'impact de l'appareil militaire sur tout sol étranger, sauf dans le cas d'un risque extrêmement vital pour les intérêts où là il faut y aller avec toute la puissance de l'appareil militaire. Et c'est aussi une politique étrangère qui se méfie terriblement des alliances américaines, des alliances avec l'Europe, des alliances avec les alliés moyen-orientaux et des alliances avec les alliés asiatiques, en particulier le Japon. Donald Trump a une obsession anti-japonaise qui probablement héritée des années 80, où il se plaint énormément de ce que finalement, le Japon bénéficie de la sécurité américaine sans en payer jamais le prix. Et donc, cette idée d'un retour des intérêts américains en dehors de ces alliés qui sont finalement des alliés qui profitent de l'Amérique, qui vivent au crochet de l'Amérique, c'est très très fort dans la rhétorique de Donald
Trump. Ça signifie qu'il reviendrait, s'il était élu, sur cette politique de pivot vers l'Asie mise en place par Barack Obama, sur cet accord avec l'Iran, sur ce rapprochement avec Cuba dont on va voir la traduction concrète la semaine prochaine?
Alors, il dit tout un tas de choses là-dessus. Par exemple, il reviendrait sur l'accord avec l'Iran parce qu'il arriverait à en renégocier un tellement mieux que ce serait formidable. Je pense qu'il y a une chose, c'est la rhétorique. L'autre chose, c'est la réalité de ce qui est faisable quand on arrive. Je pense qu'il est sûr que un de ses chevaux de bataille, ce sera clairement le commerce international et l'arrêt des négociations avec par exemple en Asie ou en Europe les partenaires. Mais pour ce qui est du reste, il faut rester dans une réalité. L'accord sur le nucléaire iranien, il y aura une pression de Washington pour le maintenir.
Merci beaucoup Célia Belin d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université Panthéon Assas et auteur de Jésus et Juif en Amérique, droite évangélique et lobby chrétien pro-Israël. C'est paru chez Fayard en 2011. Décryptage avec Bruno Hermès, à la technique Yann Bourdelas. L'émission est à retrouver sur RFI.fr.